Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour Pararon, quoi.
Nicolas Caro.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre, invité exceptionnel cette semaine, une journaliste bien connue et bien aimée, Florence Aubenas, qui est aussi écrivain, on la rejoint dans un instant. Nous lirons un roman culte, j'ai choisi « Deux sangs froids » de Truman Capote pour rester dans le thème de Florence Aubenas, vous verrez, et nous visiterons la bibliothèque de l'avocat Emmanuel Pierrat. Attention, elle est remplie de livres interdits. Nous irons nous balader dans une librairie chez Christophe Daniel pour trois conseils, et ce grand enfant de Victor Dolande fermera la boutique avec son roman Jeunesse. Mais d'abord donc, c'est l'invité, La Voix est libre, c'est parti, premier chapitre. En 2008, à Montréal-Lacluse, à quelques dizaines de kilomètres de Genève, Catherine Burgot, postière, est assassinée salement, 28 coups de couteau et 2600 euros dérobés. Qui a fait le coup? Et si c'était ce marginal, Gérald Thomassin, qui traînait dans le village depuis quelques temps? Il a eu son heure de gloire, Thomassin, le César du meilleur espoir en 1991, mais il vient de la DAS, il a joué dans Le Petit Criminel notamment, il a le profil. La rumeur fait le reste. En 2013, il est soupçonné du meurtre, mais il clame son innocence. En 2015, il est relâché. Entre-temps, il a rencontré la journaliste du Monde, Florence Aubenas, qui enquêtait sur cette affaire. En 2018, un nouveau suspect est identifié par la reine des preuves, une trace ADN. En août 2019, une confrontation est organisée à Lyon. C'est sans doute la fin du calvaire pour Gérald Thomassin. Mais le même jour, il s'évanouit dans la nature. Aucune nouvelle depuis. Bonjour Florence Aubenas.
Bonjour.
Vous publiez donc L'Inconnu de la Poste aux éditions de l'Olivier, les grandes, magnifiques, prestigieuses éditions de l'Olivier. C'est votre enquête à la manière du journalisme littéraire, on peut dire ça, un récit, mais raconté avec style. C'est quoi la différence entre un article de presse ou un essai, un roman, et ce qu'on appelle donc le journalisme littéraire, c'est-à-dire ce qu'a fait notamment l'écrivain Truman Capote avec son livre « De sang-froid ».
C'est très gentil de me comparer à Truman Capote, j'en suis heureuse, j'aurais pas cette prétention. Mais en tout cas, c'est vrai que quand on écrit un article, j'adore ça, je fais ça depuis plus de 30 ans, donc c'est vraiment comme ça que je me définis, comme journaliste. Mais un article, c'est un seul fil. Donc ce que vous racontez n'est suivi que par un seul fil. Thomassin est-il coupable? Donc vous faites le portrait de Thomassin ou du village, etc. Ce qui m'intéressait en transformant les différents articles que j'avais pu faire sur cette affaire en un livre, c'était de mélanger tous ces fils et de faire cette tresse où se mélange l'histoire de Thomassin, celle du père de la victime elle-même, du village. Et c'est ça, pour moi, l'intérêt de faire un livre.
Mais d'ailleurs, il y a une grande différence avec ce qu'on appelle le journalisme littéraire habituellement, c'est que vous vous mettez assez peu en scène, finalement. On sait que c'est vous qui parlez, puis comme vous êtes connu, on vous entend, on vous voit, mais vous ne faites pas partie des personnages de l'histoire, comme c'est le cas chez Jaénada, par exemple, dans La Serpe, ou des choses comme ça.
C'est vrai que on peut l'écrire. Je me suis posé la question, furtivement, au début du... quand j'ai commencé à l'écrire. Est-ce qu'on écrit à la première personne? Est-ce que je mets « je » ou pas? Et c'est vrai que ça m'ennuyait de le mettre à la première personne, parce que je ne voulais pas qu'on voit cette histoire et chacune des personnes qui la vivent à travers mes yeux. Et ça, pour moi, c'était très important que chacun, que chaque personne ait sa place, ait toute sa place, et défende ce qu'elle a à dire. Et non pas de dire « je rencontre un tel ». Alors, je trouve ça formidable, hein. J'ai beaucoup aimé La Serpe, beaucoup aimé L'Adversaire de Carrère, par exemple, ou ce type de travail avec quelqu'un qui se met en scène. Mais moi, je ne le voyais pas comme ça. Je pensais qu'il fallait laisser les gens vivre, laisser chacun vivre.
Et quelle est la méthode pour ça? Parce qu'effectivement... C'est construit comme un roman, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement les personnages arrivent pas les uns après les autres, mais ils se croisent, ils se dessinent petit à petit, l'histoire se tisse tout doucement, mais vous vous basez sur quoi? Les dialogues de garde à vue par exemple, les conversations téléphoniques sur écoute, c'est le dossier, ou alors vous faites des évocations, vous faites des reconstitutions?
Alors je me suis basée sur tout, c'est-à-dire effectivement sur des éléments racontés dans le dossier, sur des témoignages de gendarmes, de magistrats, et les témoignages des personnes elles-mêmes qui l'ont vécu. Donc j'ai rencontré à peu près toutes les personnes dont je parle, je les ai rencontrées, elles m'ont expliqué ce qu'elles ont fait, ce qu'elles ont dit. Alors, ce qui est très difficile à rendre, quand, à partir d'un certain moment dans le récit, j'assiste aux choses, hein, puisque j'ai moi-même fait des enquêtes, une enquête autour de ça, et donc j'ai rencontré Thomasin, il y a des scènes auxquelles j'assiste, etc. En revanche, certaines non. Et donc, comment faire, et c'est un problème presque déontologique, hein, comment faire pour raconter quelque chose, une scène à laquelle on n'a pas assisté. Donc, on demande à tous ceux qui étaient présents, évidemment, de vous la dire. Reste ce point central qui sont terribles, cette zone grise, qui sont les dialogues. C'est-à-dire, comment vous reproduisez un dialogue? Est-ce que vous pouvez être sûr que c'est ça qu'on a dit? Déjà, quand on fait une interview, en tout cas en presse écrite, c'est compliqué de savoir qu'est-ce qu'on reproduit. On réécrit toujours un petit peu entre l'oral et l'écrit. Et donc ça, j'ai le plus possible évité de mettre des dialogues longs quand je n'y ai pas assisté.
Vous décrivez aussi, évidemment, le contexte, le décor, je veux dire. Et puis, vous décrivez une certaine France à ce moment-là. On est à Montréal-la-Cluse, donc entre Genève et Lyon, du côté de Mâcon, Bourg-en-Bresse. Un coin ni pauvre, ni complètement prospère. Pas pire qu'ailleurs, dit un des personnages.
Alors, il est modeste, parce qu'en fait, et cette région, je la connaissais très mal. Et elle-même ne se laisse pas découvrir, ne se raconte pas. On est dans un pays, alors ils le disent eux-mêmes, de taiseux. Donc on est passé très rapidement dans les années 60 après-guerre de l'agriculture à l'industrie du plastique.
La Plastic Valley.
La Plastic Valley, voilà. Et c'est le pôle européen du plastique. Donc c'est un endroit haut de gamme, avec de l'emploi, et qui a eu, à l'époque où ça a commencé, son côté Far West. Donc les gens, qui avait l'audace, a pu se lancer, a pu faire fortune, et tout le monde a mis, enfin en tout cas ceux qui ont mis dans leur garage, dans leur grange, dans leur salon, deux presses à injecter le plastique pour faire des petits objets, essayer d'arriver. Et alors ils ont cette phrase, les pauvres devenaient riches, quelqu'un qui venait d'arriver pouvait devenir patron. Et il y a eu comme ça un espèce d'enthousiasme de toute cette région. Ils disaient, on avait la foi, on voulait, un des élus locaux dit très joliment, certains ont eu la ruée vers l'or, nous on a la ruée vers le plastique. C'était au point où ils voulaient élire une Miss Plastique à Oyonnax. Enfin, c'était vraiment les 30 Glorieuses dans toute leur splendeur, en réalité.
Mais comme par hasard, à peu près au moment du meurtre, il y a la crise de 2008 qui passe par là. Et il y a des licenciements à ce moment-là.
Exactement. Au point où tout se mélange un peu ce jour-là. C'est-à-dire que des gens, ce même jour, sont convoqués pour être licenciés. Et c'est vrai que les histoires se mélangent, les peurs se mélangent, les tristesses se mélangent.
Il y a même un golf dans la région, un neuf trous. C'est dire si ça va.
C'est-à-dire qu'il faut, quand on est une région de patrons, on essaye. Mais c'est vrai que ce qui est particulier, c'est que quand on y arrive, on n'a pas du tout l'impression d'être sur la Côte d'Azur avec des villas, avec piscines. C'est pas le genre. Donc le seul signe de richesse, c'est les voitures.
Et qui est la victime, Catherine Burgot? C'est une question un peu trop complexe comme ça, en fait. Mais c'est vrai que quand on regarde un fait divers à la télé ou dans les journaux, bon, bah, il y a une victime. Bon, bah, elle n'est pas très intéressante puisqu'elle n'est plus là. Ou alors, elle est intéressante par son statut et pourquoi l'assassin n'a plus s'est intéressé. Quand on lit un livre long comme ça, enfin 250 pages, ce temps long est très, très important puisque vous prenez le temps de la décrire. On la connaît presque quand on vous lit. Qui est-elle?
Mais c'est vrai, et vous avez raison, c'est que très souvent, quand on décrit un fait divers, la fascination, le personnage central, c'est l'assassin. Et c'est autour de lui que tout tourne, c'est lui, cette espèce de portrait noir et fascinant sur lequel on se focalise. Et la victime a parfois tendance, alors sauf si c'est une histoire très particulière, familiale ou quelque chose comme ça, mais a tendance à disparaître. Et Catherine Burgot, alors c'est une jeune femme, elle a 41 ans, et c'est la fille d'un notable de Montréal-la-Cluse. La famille Burgot, donc, qui est très respectée. Monsieur Burgot a longtemps travaillé à la mairie. Elle-même est une jolie femme. Et donc, ses copines la décrivent comme la Sophie Marceau de Montréal-la-Cluse.
Courtisée.
Elle est courtisée. Elle est charmante. Elle tient ce bureau de poste. Elle est seule employée de ce bureau de poste. Et alors, elle, c'est l'enfant du pays. Elle est née là. Elle va porter l'argent de la semaine aux personnes âgées chez elle. Enfin, c'est quelqu'un de très apprécié qui travaille seul dans ce bureau de poste. Et donc, elle a deux enfants et elle est enceinte d'un troisième. Donc, c'est une postière qui travaille seule et enceinte.
Et qui parle beaucoup de divorce avec ses copines.
Alors, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. C'est que je leur demande... Donc, Catherine Burgot tient cette petite poste. Et ses copines passent le matin. Et donc, elles prennent le café. Il y a cette cérémonie du café entre elles, où elles s'installent et elles disent ça lance la journée. Alors, donc, elles sont là, elles boivent un café et elles se racontent leur vie. Alors, un des maris de ces personnes leur dit « Mais qu'est-ce que vous pouvez bien vous raconter ?» Et elles disent « On raconte notre monde, nos vies, nos galères, nos amours. » Et donc, elles racontent ça et elles disent « Le mariage a été la grande affaire de nos 20 ans, le divorce est la grande affaire de nos 40 ans. » Et donc, toutes se demandent, est-ce qu'on le fait ou pas?
On quitte Montréal-Lacluse un instant, on revient tout de suite.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue toujours avec Florence Aubenas pour L'inconnu de la Poste aux éditions de l'Olivier. Une enquête magnifique sur le meurtre de Catherine Burgot, 41 ans, tout juste divorcée, qui travaille donc à la Poste et qui un jour est assassinée. 28 coups de couteau, on a volé presque 3000 euros dans le coffre, il y a du sang partout. Et l'enquête commence, les gendarmes arrivent et le problème c'est que dans un village comme ça, Florence Aubenas, vous citez à un moment un des villageois qui dit « c'est notre 11 septembre ». C'est toujours pareil, nous on voit ça de loin, on voit un article, on y pense, ça peut nous intéresser, on peut avoir de l'empathie, mais on a oublié le lendemain. Là-bas, ça dure des années et des années, d'autant qu'on n'a pas résolu encore l'affaire.
Oui, c'est vrai. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que ce village, est donc il y a 3500 habitants, peut-être un petit peu plus. Et tout le monde se connaît. Donc, vous voyez les voitures qui bougent. Tiens, un tel est déjà parti. Tiens, ils sont chez eux. Tiens, on voit les fenêtres qui s'allument. Ce sont des petites rues. Il y a une atmosphère très familiale dans ce village. Et donc, cette petite poste est pile au milieu, donc sur une placette qui est la place principale, un endroit de croisement en tout cas, près de l'école maternelle. Enfin, tout ça est assez petit, disons. Et ce qui est important à comprendre aussi, c'est que cette poste est toute petite et peu de gens savent qu'elle existe. Par exemple, le directeur général de la poste de la région n'apprend l'existence de cette toute petite poste qu'au moment où Catherine Burgot est assassinée.
Elle n'est même pas répertoriée.
Elle n'est pas répertoriée parce qu'elle ne fait pas d'opération bancaire. Donc c'est vraiment un tout petit établissement. Et donc, se pose très vite la question de Catherine Burgot, cette femme tellement respectée, qui est quelqu'un de très aimé, qui a pu tuer cette postière dans cette toute petite poste dont on sait à peine qu'elle existe, elle n'est fréquentée que par des gens du coin, elle est au milieu du village, il y a une seule porte pour entrer et sortir.
À 8h30 du matin.
À 8h30 du matin, alors que tout le monde va à l'école ou au travail. Donc, c'est une première énigme. Qui a pu faire ça?
Il y a une autre habitante qui dit un truc incroyable. Elle dit, parce qu'elle est interrogée par les gendarmes, elle dit « oui, j'ai peut-être vu ça », puis après elle dit « mais à ce moment-là, on ne pouvait pas savoir qu'il fallait faire attention ».
C'est vrai. Tout le monde se dit on a dû voir l'assassin.
On a envie d'avoir vu.
Voilà. Et personne, tout le monde, il y a au moins 400 personnes sont passées devant cette poste ce matin-là et aucune n'a en tout cas remarqué quelque chose qui lui permettrait de témoigner.
Et alors, en face de la poste, vit dans un souplex un des personnages principaux de cette histoire qui s'appelle donc Gérald Thomassin. Vous pouvez nous le présenter?
Alors, Gérald Thomassin, à l'époque, a 35 ans. Et il vient d'arriver à Montréal-Lacluse, c'est-à-dire qu'il est là depuis un an seulement. Et Gérald Thomassin a un trajet assez particulier, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a 16 ans, dans un foyer alors de la DAS, je le dis rapidement, mais même si le terme a changé, c'est un foyer d'aide à l'enfance. Hein. Il a été placé là, après avoir été dans une famille d'accueil où ça se passait très mal, sa mère ne pouvait pas l'élever, donc c'est un parcours difficile d'enfant abandonné ou presque abandonné. Et il est dans ce foyer de la DAS et Jacques Doyon, le réalisateur, décide de faire un casting pour un film qui s'appelle Le Petit Criminel et qui va justement raconter la trajectoire d'un de ces gamins comme ça pour laquelle la vie est compliquée et qui fait des bêtises. Et donc il fait un casting à grande échelle, donc tous les foyers de la région parisienne sont passés au crible et c'est Gérald Thomassin qui est choisi. Et c'est vrai qu'il subjugue tout le monde, non seulement pour ce casting, mais après dans le film, tant et si bien qu'il gagne le César du Jeune Espoir en 91. Et donc il est fêté, c'est vraiment un gamin, tout le monde se dit, il va aller loin. Sa propre mère est émue aux larmes, donc avec laquelle c'était difficile, et dit, ça y est, mon fils est sauvé. Le cinéma s'est penché sur son, pas sur son berceau, mais sur sa vie. Et il est sorti d'affaire, ça va être sa chance. Et le cinéma va être et sa chance et sa malchance. Et donc il va avancer comme ça dans la vie, sur un pied dans le cinéma, des tournages, il en fait un par an, donc il a réellement une carrière dans le cinéma. Et à la fois, il reste ce marginal qui, de temps en temps, dort dans la rue, qui est souvent...
Il est au RMI à ce moment-là.
Voilà, il oscille entre un cachet qu'il va dépenser à toute vitesse et le RMI, ou après RSA, avec lequel il va survivre entre les tournages.
Et il va à la poste régulièrement vider son compte pour récupérer 30-40 euros avec ses deux copains, Tintin et Rambouille.
En effet, un de ses copains de la DAS, lui voyant qu'il est dans une mauvaise période, lui dit « Écoute, j'ai mon frère qui habite Montréal-Lacluse, va donc te mettre sous sa protection, tu vas te refaire une santé et te mettre au vert, loin des embrouilles. Il s'installe en face de la poste, et dans cette poste, en effet, il est vraiment en face, c'est-à-dire son appartement, il doit y avoir 4 mètres entre la porte de son appartement et celle de cette poste. Et tous les mois, il va plusieurs fois par jour à la poste chercher 10 euros, 20 euros, de quoi s'acheter jour après jour une canette de bière, je suis gentil, mettons plusieurs canettes de bière, et un bout de pain, un sandwich, etc. Donc il a cette vie de marginal au milieu de ce village.
Et c'est les trois types qui traînent dans le village, quoi. On voit un peu le genre de type, quoi, qui sont pas méchants comme ça, hein,
qu'on remarque. Voilà.
Il tire même un coup de feu en l'air un jour.
Un coup de feu en l'air. Voilà, c'est les trois. L'ancien maire, hein, Monsieur Morosi, dit c'est de l'un d'eux, c'est les galopins du village. Alors ils sont un peu plus âgés que des galopins, hein, puisqu'ils ont tous entre 30 et 40 ans. Mais c'est ça, c'est vraiment cette ambiance-là.
Mais il n'est pas du tout accusé au départ. Au départ, c'est le futur ex-mari, parce qu'elle était en pleine procédure de divorce, Catherine, et ça se passait très très mal. Donc effectivement, tous les soupçons se sont tournés d'abord vers lui. Ça a été très dur pour lui d'ailleurs. Et puis ensuite, deux dames se baladent dans le cimetière du village et voient sur la tombe de Catherine un type qui est en train de pleurer. Et c'est Gérald Thomassin, et elles discutent un peu avec lui.
Alors au début, elles ne savent pas qui c'est, donc elles arrivent dans ce cimetière, et donc elles vont fleurir la tombe de leurs proches, et elles se disent, comme ça se fait parfois dans des pays où tout le monde se connaît, comme ça, elles disent, bon, on va passer voir la tombe de Catherine Burgot, se recueillir un peu sur la tombe de Catherine Burgot. Et s'approchant de la tombe, elles voient un homme assis sur cette tombe, pleurant, avec une canette à la main. Alors au début, elles pensent que c'est son nouveau mari, son nouveau compagnon, parce qu'elles ne le connaissent pas, et au fur et à mesure qu'elles s'approchent, elles se rendent compte que ce n'est pas lui. Et c'est Thomassin, et Thomassin pense qu'il est urgent de leur montrer, de leur mimer, comment le meurtre s'est passé.
Donc, parce que c'est un acteur, il saurait le faire.
C'est un acteur, il saurait le faire, et même il dit, il aurait fallu faire comme ci, il aurait fallu faire comme ça, je l'ai vu dans un film. Donc,
il leur rappelle que c'était une vedette du cinéma il y a quelques années.
Il raconte sa vie, il en profite pour raconter sa vie. Enfin, une conversation dure longtemps, et c'est ce moment dans le village où tout le monde se demande lequel d'entre nous ça peut être. Et tout à coup, ces deux dames, en partant, sont tout à coup prises. Au début, elles le trouvent charmant, puis tout à coup, elles sont prises d'un frisson et se disent « Et si on avait trouvé l'assassin ?» Et elles vont témoigner à la gendarmerie en disant bah, « on a vécu cette scène étrange ».
Bon, évidemment, il y a plein de rebondissements dans tous les sens. C'est une affaire en fait extrêmement complexe. Il y a beaucoup de choses. Ça s'étale sur des années en plus.
Sur 10 ans.
Juste, quand même, moi, ce que j'en retiens aussi, c'est le statut de vedette de Gérald Thomassin, qui fait évidemment le sel de cette affaire, mais qui à la fois l'enfonce parfois et puis l'aide aussi. Je ne sais pas trop comment.
Sa chance et sa malchance.
Mais je ne dévoile pas la fin en disant que finalement, la morale de l'histoire, c'est que. Une vedette, ça fait un bon scénario et donc ça peut attirer aussi les suspicions.
Oui, c'est vrai que très souvent, en tout cas au fil de l'enquête, les gendarmes le notent en disant voilà, mais c'est un acteur et ça revient sans cesse, y compris auprès de ses amis dans ce village qui disent un acteur, ça peut mentir, on le sait. Un acteur, ça peut jouer un rôle, on le sait. Il peut jouer l'innocence. Si ça se trouve, il l'a fait et il nous ment. Voilà. Et donc, il y a cette qualité d'acteur et j'ai trouvé que c'était, comme vous, un des aspects très, très troublants de cette affaire et de cette enquête.
C'est-à-dire si ça se trouve même, pardon, mais il l'a fait en croyant jouer un rôle.
Exactement. Il s'est dédoublé. Si ça se trouve, il a joué un rôle. Et alors, on regarde les films dans lesquels il a tourné. Alors, le premier s'appelle Le Petit Criminel. c'est trop beau pour être vrai. Il y en a un autre qui est un film qui s'appelle Shaitan, donc le diable. Donc, tout à coup, on se dit, mais il joue dans des films bizarres. Donc, forcément, il a appris à faire des choses. Il y a un de ses films qu'il a également tourné avec Doyon, qui est versé au dossier. Parce que dans ce film, une personne est menacée avec un couteau et celui qui menace est Thomassin. Donc on dit, regardez, il tient le couteau exactement comme le meurtre a été commis. Donc, il a d'ailleurs un couteau sur lui. Enfin, et donc, cette qualité d'acteur devient son casier judiciaire, en quelque sorte.
Qu'est-ce que vous faites, Florence Omna, de la fascination pour les faits divers? Parce que vous le rappelez sans arrêt, bon déjà il y a des morts évidemment, mais aussi un fait divers, ça détruit beaucoup beaucoup de vies.
C'est une dévastation.
Les suspects ont dissèque leur vie, leurs secrets sont éventrés, écrivez-vous. Moi je me rappelle cet été, Xavier Dupont de Ligonnès, il y avait une sorte de fascination comme ça, un peu malsaine finalement. Et puis moi le premier, je suis allé chercher mon Society. Donc, mais à la fin, en finissant le deuxième tome du Society, je me suis dit, ça rigole pas quoi. Comment on fait pour se sortir de cette fascination-là? Est-ce que vous en avez une, vous, sur les faits divers?
c'est pas une fascination. Enfin, je pense que c'est à la fois normal et vieux comme le monde. Enfin, je veux dire, c'est dans un fait divers, se mélange beaucoup de choses. Se mélange la violence, se mélange curieusement beaucoup de politique aussi. Hein, c'est-à-dire que tel fait divers, en fonction d'une campagne électorale, peut être mis en avant. Tel fait divers révèle un pan de la société. Par exemple, dans celui-là, moi, la violence du milieu du cinéma, c'est quelque chose qu'on sait intuitivement. Hein, on voit bien que beaucoup d'acteurs sont des grands monstres brisés, en fait, d'une certaine manière. Hein, quand on pense à Marilyn Monroe, quand on pense même en France à Patrick Devers qui s'est suicidé, etc. Et ça le rappelle aussi. Donc, c'est à l'occasion d'un drame, ça éclaire aussi des pans de la société. Et je pense que c'est que tout ça fait ce mélange, et ce mélange très, oui, j'ose pas dire romanesque, mais parce que c'est évidemment terrible pour ceux qui le vivent. Mais pour le grand public, je pense qu'il y a de ça aussi.
Restez avec nous, Florence Omenat. Dans un instant, nous lirons le livre culte « De sang-froid » de Truman Capote pour rester dans l'esprit du journalisme littéraire.
La Voix est livre. Nicolas Caro.
Retour dans La Voix et Livre, toujours avec Florence Obenat pour son nouveau livre « L'inconnu de la Poste », une enquête journalistique mais écrite comme un roman. C'était le cas aussi pour « De sang-froid » de Truman Capote, un chef-d'œuvre, un polar mais pas vraiment un roman non plus, de la narrative non-fiction. En fait, c'est l'écrivain Truman Capote qui se met en scène. Il se rend dans un lieu où s'est déroulé un meurtre. Nous sommes au milieu des années 60. Truman Capote est un écrivain new-yorkais très jet-set, très mondain. Mais un jour, il entend parler d'un terrible crime qui a eu lieu dans le Kansas en 1959. Deux hommes ont tué quatre membres d'une même famille de fermiers. Ils ont été arrêtés. Ils risquent évidemment la peine de mort. Truman Capote s'y rend. Il s'installe là-bas et il fait une véritable enquête. Il interroge tout le monde, se rend sur les lieux et il rencontre même les assassins. Il veut comprendre comment on passe de marginal à criminel et il raconte tout. Pas un roman, parce que tout est vrai, mais c'est pas non plus un travail de journaliste, parce qu'il se met en scène et cherche pas l'objectivité à tout prix. Au contraire, c'est un texte tout à fait subjectif, mais c'est surtout incroyablement bien écrit. Il a d'abord publié le livre par épisode dans le New Yorker, et puis en volume, en 1966, 8 millions d'exemplaires vendus. Mais il en a payé le prix. Truman Capote a été très secoué par cette histoire. Il a assisté même à l'exécution des accusés. C'est resté un traumatisme. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de dérangeant dans ce livre. Vous n'en sortez pas indemne. On écoute la première page du livre, lue par le comédien Philippe Dussault.
Le village de Holcomb est situé sur les hautes plaines à blé de l'ouest du Kansas. Une région solitaire que les autres habitants du Kansas appellent là-bas. À quelques 70 miles à l'est de la frontière du Colorado, la région a une atmosphère qui est plutôt far west que middle west, avec son dur ciel bleu et son air d'une pureté de désert. Le parler local est hérissé d'un accent de la plaine, un azimant de cow-boy, et nombreux sont les hommes qui portent d'étroits pantalons de pionniers, de grands chapeaux de feutre et des bottes à bout pointu et à talons hauts. Le pays est plat, et la vue étonnamment vaste. Des chevaux, des troupeaux de bétail, une masse blanche d'élévateurs à grains qui se dressent aussi gracieusement que des temples grecs sont visibles bien avant que le voyageur ne les atteigne. On peut également voir Holcomb de très loin. Non pas qu'il y ait tellement à voir. Rien qu'une agglomération de bâtiments sans objet, séparés au centre par les rails de la grande ligne du Santa Fe Railroad, un hameau construit au petit bonheur et limité au sud par une partie boueuse de la rivière Arkansas. Au nord, par une grande route, la route 50, et à l'est, ainsi qu'à l'ouest, par des terres de pâturage et des champs de blé.
C'était la première page de « De sang-froid » lue par le comédien Philippe Dussault. Et vous, Florence Omenat, c'est quoi votre livre culte, si vous en avez un?
Ouais. En fait, les livres cultes, je pense qu'ils changent tout le temps. C'est-à-dire que je passe de livre culte en livre culte, suivant les périodes de la vie, les moments où on les lit. En ce moment, comme j'étais un peu dans le judiciaire, c'est un bouquin qui s'appelle « L'affaire Mauritius » et qui est de Jacob Wasserman, qui est un Allemand du début du siècle.
La fiction.
Du 20e, oui, bien sûr. Et qui est un livre formidable, qui est l'histoire, grosso modo, d'un procureur de la République qui condamne quelqu'un pendant sa carrière, bien sûr, qui fait condamner quelqu'un. Et son fils, qui a 15 ans, fait une sorte de parcours initiatique en disant « Mon père s'est trompé ». Et il fait la contre-enquête de ce qu'a fait son père. Et c'est un bouquin remarquable.
Magnifique.
Magnifique.
Vous rappelez le titre ?
L'affaire Mauritius.
De ?
Jacob Wasserman.
Merci Florence Avna. À suivre, visite de bibliothèque. Cette semaine, nous partons dans la bibliothèque sulfureuse d'Emmanuel Pierrat.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue, nouvelle page. On sort un peu du studio à la rencontre d'Emmanuel Pierrat, un personnage fascinant, avocat, écrivain, essayiste et collectionneur. Il publie un livre tous les trimestres à peu près. En ce moment, on trouve le passionnant 1857, la littérature en procès, et Fou Ballant, trompe la mort chez Flammarion. Bonjour Emmanuel Pierrat.
Bonjour Nicolas Carreau.
Merci de nous accueillir à Babylone, parce que là, on est vraiment dans votre antre. Vous postez quelques photos sur Instagram, donc je ne suis pas tout à fait surpris, mais je ne sais même pas par où commencer. Il y a des livres partout, évidemment. On a fait un peu le tour des pièces pour reconnaître les différentes positions des livres. Il y en a partout, partout. Et surtout, la pièce est remplie d'armes anciennes, de masques de civilisations lointaines. Il y a même une armure de samouraï. Qu'est-ce que c'est ? Alors, devant vos... Alors, bon, on est dans le salon, double salon, avec des bibliothèques sur tous les murs, mais certaines sont un peu obstruées par des lances. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, elles sont obstruées par des lances, des casse-têtes, des massues d'Océanie, d'Afrique, de partout à peu près sur la planète. Et il y a double rayonnage de livres. Donc, il y a des livres qui sont très, très loin et pas inatteignables, mais pour lesquels il faut faire quelques efforts. Des livres qui se méritent.
Mais alors, ils sont classés comment ?
Ah, ils sont, alors, il y a une grande bibliothèque interclassée, de A à Z, littérature, fiction, non-fiction, étranger, français, livres de poche et livres à très cher, un mélange de tout. Tout ça est interclassé. Et après, il y a des bibliothèques spécialisées, histoire de la censure, érotisme, justice, mémoire d'avocat, drogue.
Toutes vos marottes,
et deux, trois choses, toutes mes marottes.
Parce que vous avez publié, vous, une bonne centaine de livres déjà,
un peu plus qu'une, 110-120.
110-120, c'est un record, non ?
Non, le record reste là-bas. Vivant, je pense qu'on est très peu. Il y a Johann Sfar qui a dû publier une centaine de livres. J'ai dit à Gérard de Cortance qu'il fallait qu'il fasse un effort parce qu'il était à 80. Et voilà, non, on est une poignée. On doit être 3 ou 4. Et j'ai proposé de faire un club des 100.
À 50 ans à peine, en plus.
À 52 ans.
52 ans.
J'ai fait une fête pour mes 50 ans qui s'appelait 50 ans sans livre. Et j'ai triché parce qu'il y en avait déjà 108 ou 109.
Mais vous avez commencé quoi, à 20 ans, les livres, ça en fait une moyenne de 3 ou 4 par an. Comment on fait pour écrire ? Parce que vous êtes avocat, par ailleurs, hein, quand même.
Toute la journée, oui. La journée, je plaide, je dirige un cabinet.
Je sais que vous avez
une équipe et je dors très peu.
Voilà.
Je dors vraiment très peu. J'ai même écrit un livre sur mon rapport au sommeil qui s'appelle « Troublé de l'éveil » chez Fayard, à la demande de mon éditrice qui était étonnée par la rapidité avec laquelle je lui fournissais ma copie. Et elle m'a dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Comment fais-tu ? » Je lui ai raconté. Elle m'a dit « On fait un livre sur ça. » Un livre qui existe, par ailleurs, à la bibliothèque aux éditions des femmes, dans la bibliothèque des voix. Donc j'ai lu. Également en studio.
Mais quand vous dites très peu, je crois que c'est 3 heures par nuit.
Un peu moins de 3 heures.
Mais c'est un truc physique, vous n'avez pas besoin de dormir plus, c'est dangereux.
Je n'ai pas besoin de dormir plus, ça n'est pas dangereux. Mes parents étaient très inquiets quand j'étais petit, surtout que ça a commencé avec la lecture, pour faire simple. C'est mon premier souvenir d'éveil ou de nuit sans sommeil, c'est un souvenir de lecture. C'est quand j'apprends à lire à 6 ans et que je découvre ce qu'est enfin la littérature. La littérature pour les enfants de 6 ans, hein, vous tombez pas.
Ce qui est génial, c'est que vous n'êtes pas non plus dans une sorte d'insomnie, dans un brouillard où vous ne pouvez rien faire. Vous
écrivez, je travaille.
Vous êtes parfaitement éveillé.
Je n'ai qu'une seule interdiction, c'est que je ne peux pas faire des sports ou des exercices physiques toute la nuit. Je dois rester à peu près calme et tranquille. Donc dans ma bibliothèque, c'est parfait. Je peux lire, je peux écrire, je lis beaucoup de journaux, je lis beaucoup de livres et j'en écris beaucoup. Voilà. Donc une activité plutôt paisible.
D'où ils viennent ? Parce que, en fait, mon travail, normalement, c'est d'écrire par la voix, mais là, j'échoue parce que c'est vain. Il y en a partout, partout, des masques, des lances, je ne sais pas. Là, devant moi, il y a un mur qui doit faire 6 mètres de large et il y a, 50 lances qui donc cachent la bibliothèque. D'où ça vient ? C'est des voyages ? Vous les commandez ? Vous les collectionnez ?
Alors, j'ai même écrit 3 livres, je pense, sur l'art africain. Donc, j'ai écrit « Les arts premiers pour les nuls », j'ai écrit un livre qui s'appelle « Comprendre l'art africain au chêne », et j'ai écrit l'année dernière, ou chez Gallimard, un essai sur la restitution des œuvres d'art à l'Afrique. Donc, je suis pas partisan, je suis très prolixe. Et il y a globalement beaucoup de choses africaines, d'objets africains, sur les 1000 et quelques que contiennent cet appartement, il y a peut-être 800 objets d'Afrique. Et puis, il y en a d'Océanie, d'Himalaya. Il y a beaucoup de l'archéologie. Il y a des choses de la reine de Saba, des choses très anciennes. Il y a des choses étrusques, romaines, grecques, égyptiennes, pharaoniques. Et j'en achète en salle des ventes, j'en chine. Je travaille hors du coronavirus, je voyage. Quand nous ne sommes pas en pandémie, je prends beaucoup, beaucoup l'avion. J'ai un bilan carbone très mauvais, mais qui me permet malgré tout d'aller en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux îles Salomon, et de ramener dans mes bagages, de mes dossiers, quelques objets qui n'étaient pas nécessairement le but premier du voyage.
Et ce n'est pas un appartement gigantesque du tout. Ça fait 4-5 pièces.
C'est pas un petit appartement.
Là, on se dit qu'on
ne
peut pas en rajouter non plus.
On peut toujours en rajouter.
Parce qu'on est allé dans la chambre de vos enfants tout à l'heure, parce qu'il y a vos bibliothèques aussi dans leur chambre, faute de place, et notamment toute une bibliothèque sur les autopsies et la médecine légale dans la chambre de votre fille de 10 ans.
Oui, ben, il faut qu'elle apprenne tôt, qu'elle sache tôt ce qu'elle doit faire professionnellement ou qu'elle sache à peu près tout. Non, je pense qu'il n'y a rien d'immontrable aux enfants à condition d'expliquer.
Non, mais voilà, vous empiétez sur leur territoire quand même.
Ah oui, bien sûr.
C'est les livres d'abord.
Non, mais l'appartement, il y a quand même des plafonds assez hauts, des étagères assez hautes. Ça fait quasiment 3 mètres de hauteur. On est dans un appartement haussmannien. Mes filles de 10 ans, j'espère qu'elles ne montent pas à 3 mètres de hauteur pour aller chercher des livres. Sinon, j'aurais peur pour sa santé physique.
Et qu'elles tombent. Donc,
je peux utiliser les rayonnages qu'elle ne peut pas atteindre ou qu'elle pourrait atteindre avec beaucoup d'exercices et quelques risques.
Alors, ce qui est fascinant aussi, c'est qu'il y a beaucoup de manuscrits encadrés, parce que vous collectionnez ça aussi, et notamment devant moi, je crois que c'est un manuscrit du Marquis de Sade.
C'est le règlement intérieur que le Marquis de Sade a écrit à Charenton, à l'asile, pour remplacer le règlement officiel. Monsieur de Coulmiers, qui était le directeur de l'asile, avait un règlement, évidemment, comme tout établissement pénitentiaire, psychiatrique. Et Sade se plaignait parce qu'il avait du mal à écrire. Il disait qu'il était mal servi. Comme il était mal servi, il mangeait mal. Et comme il mangeait mal, ses pieds gonflaient. Et comme ses pieds gonflaient, il était obligé de les mettre dans une bassine. Et comme la bassine était contre le mur, il ne pouvait pas écrire parce que la position était inconfortable.
Il explique tout ça.
Et il explique pourquoi désormais on doit être servi par des gens de son rang. Il est marquis, donc il estime qu'il ne peut pas être servi par un demi-fou. Il dit « J'ai demandé à ma voisine, la comtesse, qui est enfermée et également internée, de me servir parce que c'est la seule qui sache le faire, sans faire gonfler mes pieds, etc. » Donc il explique toutes ces règles pour améliorer la littérature au sein de l'asile de Charenton.
Alors justement, on va commencer à comprendre pourquoi je disais qu'on était à Babylone. Parce que de Sade, on passe à votre bibliothèque de livres érotiques, parce que vous en êtes aussi un spécialiste. Vous êtes d'ailleurs membre du prix, j'ai oublié son nom.
Je suis président du prix Sade.
Du prix Sade.
J'ai enseigné la littérature érotique à l'Institut national de formation de la librairie, où j'enseignais le droit d'auteur, le droit du livre, le droit des libraires et en parallèle la littérature érotique.
Parce qu'on va y venir tout à l'heure, mais vous êtes aussi un spécialiste de la censure littéraire. Ça va avec, évidemment.
Ça va avec, évidemment. À l'origine, c'est la censure. C'est l'avocat que je suis, l'avocat lecteur, qui s'intéresse aux livres interdits. Aux livres interdits, on passe l'histoire de la censure et l'histoire de la censure, on va vers les sciences, la politique, les mœurs, les mauvaises mœurs, voilà, tous les sujets, la santé, tout ce qui peut être éventuellement l'objet de poursuite.
Les mœurs, c'est le livre interdit numéro un ou c'est d'abord la politique, par exemple?
C'est un tiers de politique, un tiers de mœurs, un tiers de religion.
Ah oui, religion, voilà, bien
voilà.
Sûr.
Et on va dire ces trois gros tiers, et peut-être que ça ne fait pas tout à fait 33% à chaque fois, et qu'il reste un petit pourcentage de choses diverses et variées sur d'autres sujets.
Bon, il y a beaucoup de choses, on va pas pouvoir tous en parler, mais il y en a un qui m'intrigue particulièrement, enfin plusieurs, c'est 7 tomes d'un livre avec une couverture, une reliure rouge, mais surtout dans une prison, dans une petite cage avec un petit cadenas, ils sont enfermés. Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est une cage de livres interdits qu'avait édité Claude Chou, qui était un grand éditeur de livres érotiques du XXe siècle et qui a réédité des textes du XVIIIe, des romans libertins. Et comme il savait qu'il allait avoir des procès, tant qu'à faire, il l'a vendu à ses souscripteurs avec une cage et la possibilité donc de les rendre inaccessibles à sa progéniture. Ah. Quand on est un lecteur ou un bibliophile comme moi. Voilà. Donc on peut fermer cette cage et ne pas avoir de problème avec des enfants qui regarderaient les livres qui d'ailleurs ne mettent pas beaucoup le rose aux joues. Hein. C'est oui, le canapé couleur de feu, on a connu plus érotisant aujourd'hui.
Bon, on a beaucoup de choses à faire, il faut qu'on avance parce que je voudrais quand même aller voir votre bibliothèque justement de livres censurés ou de livres qui parlent des livres censurés. C'est ici.
Alors, il y a des livres censurés, il y en a un peu partout, si je puis me permettre. Je vais vous montrer un livre censuré, parce qu'il y en a... Je suis désolé, je vais repartir ici. Après, on va venir là, mais je vais vous montrer quelque chose. Des livres censurés, il y en a beaucoup dans cet appartement et qui sont classés avec les lettres de leurs auteurs. Ça, par exemple, c'est un samizdat, c'est-à-dire un livre clandestin russe de Bulgakov. Ouais. Il s'appelle Cœur de chien. C'est le manuscrit, enfin le tapuscrit, il est dactylographié à la machine en russe. Et il est photographié en tout petit format pour être dans une boîte de photos souvenirs et dissimulé dans un appartement comme si c'était un objet inoffensif.
Ah oui, comme un jeu de cartes, quoi. Mais c'est le vrai, enfin ça a circulé à l'époque, celui-là.
Oui, c'est un livre de 1929, donc qui a circulé et puis que j'ai acheté il y a une vingtaine d'années ou 25 ans à la chute du mur ou à l'effondrement de l'URSS et qui a circulé et été beaucoup lu. C'est un des meilleurs romans de Bulgakov, l'auteur du Maître et Marguerite.
Vous lisez pas en russe quand même?
Non, je lis pas en russe, ça c'est pour l'objet. Je lis en allemand, je lis en anglais, j'ai lu en japonais que j'ai appris mais que j'ai un peu perdu et je lis en hindi, en bengali.
Est-ce qu'il y a des livres illégaux? Est-ce que si vous me dites là que vous avez tel livre, vous êtes passible de poursuite?
Oui, il y a des livres illégaux, par exemple.
Pas forcément ici, hein, mais...
Non, pas forcément ici. Merci de m'éviter une perquisition, Nicolas Caro. Donc, il y a la littérature écrite pamphlétaire ou antisémite qui a été écrite pendant la Seconde Guerre mondiale.
On n'a pas le droit de le détenir.
Si, vous pouvez le détenir, mais c'est pas non plus, en théorie, ils sont interdits de commerce, interdits à la revente. Il y a les manuscrits, enfin les pamphlets antisémites de Céline qui existent. En revanche, par exemple,
Bagatelle pour un massacre de Céline, parfois on tombe dessus chez un bouquiniste.
Chez un bouquiniste, mais pas, ça n'est pas réédité. Vous savez qu'il y avait le projet de les rééditer et puis que Gallimard qui a voulu les rééditer avec une édition scientifique irréprochable, parce que c'est important de comprendre ce qui s'est passé et d'expliquer, n'a pas pu le faire parce que la polémique a rendu inaudible ce projet, qui est nécessaire parce que ces livres tomberont dans le domaine public et donc ils ne pourront plus être... Ils sont déjà diffusés par l'extrême droite, donc il faut que les gens intelligents puissent les lire. En tout cas, que ceux qui ne sont pas racistes, etc., puissent comprendre et expliquer ce qu'il s'est passé. Donc, ce sont des livres qui sont interdits. Mais interdits surtout parce que Céline les avait fait retirer de la vente à la sortie de la guerre, quand il était en prison au Danemark et qu'il espérait revenir. Il y a des livres ici, je dois avoir des livres du Hezbollah iranien, c'est-à-dire les extrémistes islamistes qui sont interdits. J'ai des livres en arabe, j'ai des livres, des livres politiques qui ne sont pas à mettre entre toutes les mains, mais qui m'intéressent parce que c'est l'histoire du livre, de la censure et l'histoire des idées, y compris des idées nauséabondes.
Mais en vérité, on ne peut pas interdire un livre. Je veux dire, même tous les procès et tous les livres censurés dont vous avez parlé, y compris dans vos livres, aujourd'hui, on peut les lire sans problème. Évidemment, Flaubert, aujourd'hui, il n'y a pas de problème pour le lire, alors qu'il a été soumis à la censure. Même le Marquis de Sade,
Marquis de Sade, tout est publié dans la Pléiade.
Oui, on y va tout. On est un peu prévenu, mais on a le droit de le lire.
Oui, on a le droit de le lire. Non, mais tout est accessible, d'une façon ou d'une autre. Donc l'interdiction d'un livre est une illusion. D'ailleurs, les grands censeurs... à chaque fois, ils ne se sont pas trompés. Ils ont brûlé un ou deux exemplaires pour la démonstration publique et ont gardé dans ce qu'on appelle des enfers des bibliothèques tous les livres qu'ils interdisaient pour pouvoir, un, les conserver à l'abri, qu'ils ne soient pas entachés, abîmés, et les consulter. Il y a dans les grandes bibliothèques célèbres interdites, de livres interdits, il y a la Leninka, par exemple, à Moscou, du nom de Lénine, qui a été ouverte pendant la première moitié du XXe siècle et qui était destinée à être... Ce sont des livres qu'on empruntait quand on partait, quand on appartenait à la nomenclatura et qu'on voulait aller en vacances au bord de la mer Noire et avoir des lectures qui faisaient frissonner. Alors là-dedans, on trouve de tout. La très bonne littérature russe clandestine, Solzhenitsyn, Mikhail Bulgakov, mais aussi un que sais-je sur le roman d'espionnage, par exemple. Donc la bibliothèque de la Vatican, au Vatican, c'est une bibliothèque extraordinaire de livres interdits, en grande partie.
À l'enfer des bibliothèques nationales,
oui. Moi, j'ai eu accès à beaucoup, à peu près tous les enfers, à l'enfer des bibliothèques nationales, qui n'existe plus comme pièce, mais il y a les numéros des livres, au private case, à Londres, à la British Library. Je pense que j'ai écrit quelques livres sur la censure et sur les enfers des bibliothèques.
Et on dit mise à l'index, d'ailleurs, quand on parle d'un livre interdit. Pourquoi ?
C'est l'index Librorum Prohibitorum, la liste des livres interdits. Le premier catalogue de livres au monde qui a existé, la première fois qu'on a décidé de faire un catalogue de bibliothèques, c'est un catalogue de livres interdits. C'est Charles Quint. Je le trouve formidable. Pardon, qu'on invente l'idée du catalogue de bibliothèques pour dire ces livres sont des livres qu'on ne peut pas lire.
Aujourd'hui, on fait les 1001 livres à avoir lus dans sa vie, des choses comme ça, c'est quand même mieux.
Mais les index sont en tant que tels, il y en a plein ici.
Vous en avez,
dans ma bibliothèque, bien sûr, j'ai tous les index, à peu près. Puisque l'index du Vatican, c'est quand même des gens qui ont les idées, qui ont une bibliothèque aussi importante qu'ils ont les idées étroites parfois. Enfin, c'est une opinion personnelle. Et donc, les index, c'est énorme.
protégé par un bouclier qui vient d'où
Des Philippines, celui-ci, de Bornéo à côté, et puis un bouclier africain après. Mais il y a ici... Oh, c'est compliqué. Pardon, parce qu'il y a des rayonnages et des rayonnages. Donc, ici, il y a... Ça, c'est un volume de l'index, mais il y en a plein. L'index de Rome, alors 1500, 1593, 1596...
Et vous tapez tout ça, vous, pour vous...
Ce sont des livres, Nicolas Caro, extrêmement séditieux en tant que tels. Pourquoi ? Parce que le censeur, quand il fait un catalogue de livres érotiques interdits ou de livres dangereux, il recopie les titres. Et donc, sans s'en rendre compte, il écrit d'un seul coup dans l'enfer, le catalogue de l'enfer de la Bibliothèque nationale, à la lettre O, il y a orgie, orgie de petites cochonnes, orgie de... etc. Et ça devient en tant que tel un livre quasiment érotique. Et d'ailleurs, ces livres, ces index, voilà, ces index, il y avait une précaution, on a fini par s'apercevoir qu'eux-mêmes devenaient des livres érotiques, donc il est écrit au début à ne pas mettre entre toutes les mains, il faut une autorisation pour consulter la liste des livres qu'on ne peut pas consulter.
L'index est à l'index. Voilà.
Mais ça fait partie du jeu. Il y a dans ma cuisine, vous avez peut-être vu la couverture du manuel des confesseurs. Et donc tout ceci, ce sont l'histoire de la censure, mais ce sont surtout des listes de livres interdits en raison du sujet. Il y a une bibliothèque, il y a des choses amusantes. Il y a la bibliothèque jaune quelque part, qui est la bibliothèque des livres sur les cocus. Il y a les bibliothèques sur le caca, il y a des bibliothèques sur le libertinage, des bibliothèques de livres politiques, de livres scientifiques.
Interdit.
Il y a la grande littérature, hein, évidemment. Il y a Baudelaire, il y a Flaubert.
Vous avez un livre de Georges Arnaud qui s'appelle « Mon procès ».
Oui.
Georges Arnaud, qui est en fait Henri Girard, qui est connu pour avoir été accusé d'avoir tué son père, sa tante et la bonne dans un château du Périgord, où il était l'héritier de la famille. On l'a accusé de les avoir tués à coups de serpe. D'ailleurs, il y a un super beau livre de Philippe Jaénada
qui s'appelle La Serpe
et qui raconte cette histoire. Il a été acquitté grâce à un avocat que vous admirez beaucoup, Maurice Garçon. À la sortie de la guerre. Non, il était en 1943, quelque chose comme ça.
Pendant la guerre.
Et il est parti et il a écrit Le salaire de la peur. Il est devenu Georges Arnaud. Mais tout le monde a toujours pensé qu'il était coupable au fond.
Oui. Et c'est un livre qui raconte, c'est une tentative d'auto-réhabilitation.
Et il aurait dit alors à je sais plus qui que oui, c'est bien lui qui les avait tués. Vous en pensez quoi, vous, de cette affaire ?
J'en pense qu'en pensait Maurice Garçon, c'est-à-dire qu'il est innocent. Garçon a réussi à le faire acquitter.
Tout pareil avec les avocats, c'est la vérité judiciaire.
Judiciaire. Ouais. Non, je ne suis pas le confesseur de Georges Arnaud, mais le fait qu'un écrivain ait raconté son propre procès et sa propre mise au pilori m'intéresse. Donc il y a ici dans cette bibliothèque des histoires de procès, mais uniquement là des procès d'écrivains. Dans une autre bibliothèque un peu plus loin, dans la chambre de mes filles, il y a les mémoires d'avocats et d'autres affaires judiciaires.
Il y a beaucoup de livres anciens aussi. Est-ce que vous attachez une importance particulière à l'objet livre et d'où ça vous vient ?
Je pense que je suis pas seulement bibliomane, bibliophage et bibliophile. Et j'aime beaucoup la forme des livres, j'aime beaucoup les objets, j'aime beaucoup le papier. J'ai appris ça, j'étais petit lecteur de manuscrits chez Arléa, maison d'édition, pendant mes études de droit notamment. Et Claude Pingano, qui dirigeait encore peu cette maison d'édition, est un grand bibliophile qui m'a appris ce qu'était un livre ancien, le papier, les grands papiers, les tirages, la reliure, l'art de la typographie, les petites marges, les grandes marges, voilà, tout le vocabulaire des typographes. Et ma grande fierté, ça a été quand je suis devenu avocat, d'avoir été très vite recruté comme avocat de l'Imprimerie nationale, qui fait le code typographique, qui fait la règle, entre guillemets, de ce que l'imprimerie et l'art de l'imprimerie.
Oui, vous avez toujours réussi à lier finalement votre passion des livres et votre passion de.
Et là, donc, j'ai vendu beaucoup de livres anciens. Parce que quand on est collectionneur et qu'on achète et qu'on n'est pas né enfant de milliardaire, il faut financer ses achats. Donc j'ai vendu beaucoup, mais je garde des tas de petites choses, quelques livres anciens. Puis là, ça, c'est des petits hauts de Robert Morel, qui était un éditeur qui a publié plein de choses passionnantes, mais qui faisait par exemple les perles du libraire. Ce sont des petits feuillets comme ça, avec un anneau comme un porte-clés. Et sur chaque page,
une page toute ronde.
Voilà. Sur chaque page, une ânerie dite ou par un écrivain ou par un libraire
une citation. Un livre.
Il y avait les perles des écrivains, les perles littéraires qui est ici, que j'aime beaucoup. Il y a « Oh !» s'écria le muet, c'est chez Balzac. Il y a également dedans ce vers célèbre d'Alfred de Vigny, justement, qui dit « Il avait les mains froides comme celles d'un serpent ». C'est quand même un très joli vers, quand on y pense anatomiquement. Et puis, il y a les célèbres formules d'Alexandre Dumas, qui écrivait très vite, parfois pas tout seul, mais beaucoup quand même, et qui dit « Dans la main droite, il avait une corde, dans la main gauche, un sac, et dans la troisième, une épée. »
Bon, on pourrait rester encore 2-3 jours pour visiter, parce qu'il y a des choses à voir, mais je ne veux pas avoir de regrets, donc je vous laisse là, Emmanuel Pira, et je vous remercie beaucoup.
Merci de votre visite, Nicolas, car vous serez fouillé à la sortie, ça peut.
Ah, bien sûr. Merci beaucoup, maître.
De retour en studio, et je rappelle le titre des derniers livres d'Emmanuel Pira, 1857, La littérature en procès, et Fou ballant trompe la mort chez Flammarion. Et chez vous, Florence Omna, c'est rangé comment les livres ?
Alors ça, là, vous mettez le doigt sur une chose très importante pour moi, le rangement de ma bibliothèque. Alors je l'ai fait par thématique. Alors des thématiques, par exemple, les livres que je n'ai jamais réussi à lire. Alors en premier, il y a « Au-dessous du volcan », mais j'ai l'espoir.
De Malcolm Lowry.
De Malcolm Lowry.
Ulysse.
Ulysse, exactement. Un peu les mêmes que tout le monde. Donc, il y a cette étagère-là qui est assez haut. Il y a ensuite les livres qui sont les livres cultes de mes amis. Donc, qui sont sur une étagère. Ah oui. Et qui sont on me les a offerts, vous savez.
C'est quoi ? C'est l'adversaire d'Emmanuel Carrère,
des choses comme ça ? Non, ça aurait pu être un des livres de culte pour moi, mais... Non, c'est chaque...
les gens qui ont un livre culte et ils vous l'offrent, il faut absolument lire ça. D'accord.
Exactement. C'est, vous savez, assez souvent, et c'est assez agréable, des amis arrivent en disant « je viens de lire ça, lis-le d'urgence, etc. » Et donc, il y a cette étagère.
Ah, c'est pas mal, ça, de faire une place.
Ensuite,
pour ça.
Ensuite, il y a l'étagère des livres dont j'ai toujours besoin. Donc, c'est des bouquins que je sors régulièrement. Alors là,
bricolage, cuisine ?
Non, c'est des livres, pas mal de livres de journalistes, genre Nick Cohn, vous voyez ce que c'est, qui a écrit un livre formidable sur Tritska, qui est... l'histoire de la musique à la Nouvelle-Orléans. Enfin,
et pourquoi vous avez besoin toujours de ce livre-là ?
Parce que j'aime revenir de temps en temps, j'en relis un passage, enfin, des livres où je reviens sans cesse.
D'accord.
Ensuite, il y a l'étagère des livres rouges.
C'est-à-dire ?
De couverture rouge.
Ah d'accord.
Il n'y a rien d'autre. Ce n'est pas
petit
livre rouge.
C'est pas la collection
rouge.
De Mao.
Non. Et parce que je me souviens bien de la couleur, donc je sais que c'est un livre rouge, donc je les trouve facilement.
Il y a quoi là-dedans ? Il y a Suite impériale de Bret Easton Ellis ?
Non, il y a Knut Hamsun. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a ce formidable livre de Thomas Garrett, La femme changée en renard. Il y a tout un tas de livres dont la couverture est rouge.
Et après, il y a les autres couleurs ou pas ?
Non.
Est-ce que vous avez une étagère avec vos livres ?
Non.
Non.
J'en ai une au journal où j'ai tous mes livres. Alors, je ne sais pas pourquoi, mes livres précédents étaient traduits en suédois. Et alors les Suédois doivent être très généreux parce qu'ils m'ont envoyé 30 livres traduits en suédois. Et donc quand on me demande le Kedwistram, qui est le livre précédent que j'avais écrit, je donne la version suédoise, il me semble que... Tout le monde
lit un peu de suédois, tout
le monde
de toute façon.
Ouais, le suédois, ça se pratique couramment maintenant.
On pourra venir visiter un jour ?
Ma bibliothèque, très volontiers.
Ah, génial.
Je l'aime beaucoup. Mon but, vous l'avez compris, était de m'y retrouver, en fait.
Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Florence Omna. Dans un instant, plein d'autres livres. Il est l'heure des libraires. À tout de suite.
La Voix est livre. Nicolas Carreau.
La Voix est livre continue. Il est l'heure de rendre visite à un libraire. Rendez-vous chez Christophe Daniel à la librairie La 25e Heure à Paris 15e. Bonjour Christophe Daniel.
Bonjour Nicolas.
Merci de nous recevoir. On a coupé Leonard Cohen, mais
pour pouvoir
s'entendre.
Mais bon, voilà.
Mais c'était bien ce petit Leonard Cohen en fond dans la librairie. Ah, c'est important la musique dans une librairie aussi.
Ah, ça crée un climat qui va bien avec les livres. Ouais.
Et qui va bien avec la 25e heure. De quoi nous parlez-vous ? Il y a une nouvelle saison.
Oui,
d'un livre dont vous nous aviez parlé l'année dernière, je crois.
C'était il y a 2 ans, je crois, maintenant. Ouais. C'était le premier volet donc, d'un cycle consacré aux saisons d'une auteure qui s'appelle Ali Smith, qui est écossaise. Donc, le premier volume, c'était automne. Et maintenant, le deuxième, c'est hiver.
Logique.
Voilà. Je tiens à signaler que les 4 romans, enfin les 2 prochains seront traduits bientôt, se lisent totalement indépendamment. Mmh. Et là, dans Hiver, on est toujours avec cette écriture très, très poétique qu'a Ali Smith et qui nous raconte une histoire de famille avec une femme qui s'appelle Sophia Cleaves. Et Noël approche et elle invite son fils Arthur pour le repas de Noël, qui doit lui présenter sa fiancée Charlotte. Seulement, Arthur a un petit souci, c'est que Charlotte l'a largué quelques semaines avant.
Dommage.
Et il ne veut pas perdre la face devant sa mère, donc il rencontre une jeune fille à un arrêt de bus, et cette jeune fille va prendre la place de Charlotte. On va se retrouver à ce repas de Noël et là, Arthur va se rendre compte que sa mère ne va pas bien du tout. Donc il appelle à la rescousse sa tante, la sœur de sa mère. Elles ne se sont pas vues depuis 30 ans. Voilà, un roman...
Mais tout en même temps.
Ouais. C'est drôle, c'est passionnant, c'est très poétique. Et puis c'est une réflexion sur les faux-semblants de la société aussi.
Et on attend le printemps et l'été. Donc c'est Hiver d'Alice Smith chez Grasset, traduit par Laetitia Devaux. Quoi d'autre ?
Alors, un premier roman d'une jeune femme qui s'appelle Emmanuelle Dourson. C'est aussi chez Grasset. Et le titre, c'est « Si les dieux incendiaient le monde ». Mm-hmm. Très beau titre emprunté à un poème de Philippe Jacotet. Là aussi, on est dans une histoire familiale, une famille déchirée. Alban, une des filles de cette famille, est partie aux États-Unis en coupant les ponts avec parents, sœurs, toute sa famille, parce que sa sœur aînée, Clélia, lui a volé son amoureux. Elle est partie sur un coup de tête, elle est devenue pianiste virtuose, elle vit à New York. Seulement voilà, elle va donner un concert, donc 15 ans après, à Barcelone. Et là, les membres de la famille se sentent obligés d'aller assister à ce concert. On a des chapitres qui alternent tout ce qui se passe dans la tête des différents personnages de la famille. Et il y a une narratrice mystérieuse, dont on va apprendre l'identité à la lecture du roman. C'est très original, c'est maîtrisé, ça raconte une très belle histoire. Il y a donc la présence de Jacotet et aussi de Vladimir Nabokov qui viennent un peu hanter les pages de ce beau roman.
C'est un premier roman, Si les dieux incendiaient le monde. Qu'est-ce qui vous a donné envie de le lire ?
Qu'est-ce qui m'a donné envie de le lire ? Eh bien, écoutez, la façon dont ma représentante m'en a parlé. C'est très important. Ouais, je rends hommage au travail des représentants parce que c'est souvent eux qui éveillent aussi notre curiosité à lire des livres et surtout des premiers romans.
Vous êtes très roman famille, j'ai remarqué, hein, Christophe Daniel. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je ne vais pas interpréter tout ça, mais c'est vrai. Hein.
Bon, je vais autant parler d'un troisième qui n'a rien à voir avec la famille. C'est celui de Bruno Pellegrino dans La Ville provisoire. Donc là, on est dans une ville entourée d'eau, de canaux. On peut facilement la reconnaître, même si elle n'est pas nommée. Et on va suivre les pas d'un jeune homme qui flotte un peu lui aussi dans cette ville, qui est chargé par une fondation d'aller inventorier la maison d'une traductrice célèbre, laquelle traductrice est en maison de retraite. Mmh. Et il va être complètement fasciné par cette femme à travers les petits morceaux de texte qu'il va retrouver, à travers ses vêtements, à travers des objets qu'elle a dans sa maison. Et Bruno Pellegrino, il a cette écriture vraiment envoûtante. C'est presque une expérience sensorielle quand on lit.
Ah ouais.
Je crois que je vous avais déjà parlé aussi de son premier livre, oui. Là-bas, août est un mois d'automne. On retrouve cette même magie et cet envoûtement dans le texte de Bruno Pellegrino. Et je vous invite vraiment à déambuler dans cette ville provisoire.
Aux éditions Zoé, et on rappelle Alice Smith, Hiver chez Grasset, et Si les dieux incendiaient le monde d'Emmanuelle Dourson chez Grasset aussi. Merci beaucoup Christophe.
Merci Nicolas.
À bientôt.
Retour à Europe 1 et nous sommes rejoints dans un instant par ce grand enfant de Victor Dolande et son conseil littérature jeunesse. A tout de suite.
Il était une fois.
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 Et comme chaque semaine, on retrouve le conseil littérature jeunesse de Victor Dolande. Bonjour Victor.
Bonjour Nicolas.
Aujourd'hui, un livre intitulé « Des mots en fleurs » de Marie Collot et Carolien van der Stappen.
Oui, c'est un très joli conte. On suit les pérégrinations de Monsieur Mot, un jardinier qui cultive des mots dans son jardin, un peu hors du commun.
C'est joli.
Oui, c'est magnifique. Un livre découpé en quatre parties, comme le nombre de saisons dans l'année. On démarre bien sûr avec le printemps, où la terre est multicolore, les fleurs prêtes à éclore et les abeilles se promènent dans un joyeux désordre. Dans le jardin d'à côté vit Monsieur Terre qui, lui, sélectionne les plus belles graines avec une précision quasi obsessionnelle. Et ce Monsieur Terre ne comprend pas franchement très bien ce que fait Monsieur Mot.
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait ?
Il récolte les bons mots et les range dans un carnet qu'il garde toujours sur lui. Il en sort des poèmes et des alignements de mots qui l'amusent beaucoup, comme le vomi intersidéral d'un filou d'ornithorynque et quelques néologismes, quelques MGM, des mots génétiquement modifiés. Il y a toujours un lien comme ça entre la Terre et les mots. Monsieur Mot a l'air heureux en somme et son entente avec Monsieur Terre, un maniaque de l'engrais, va en se bonifiant. comme la terre au fil des saisons. L'année avance, le carnet de Monsieur No se remplit aussi vite que Monsieur Terre améliore ses récoltes.
À partir de quel âge, c'est la question rituelle?
À partir de, je dirais, 6-7 ans, c'est un conte extrêmement poétique qui mélange la terre et les mots, labour la langue et cultive avec beaucoup de douceur notre imagination. Les illustrations collent parfaitement aussi au récit. Dans ces dessins, les enfants feront aussi leur marché à leur guise. À la fin, il y a 6 pages de cahier vide pour que les enfants puissent à leur tour exactement bêcher et défricher l'amour des mots.
Et on rappelle le titre, Des mots en fleurs de Marie Collot et Carolien. Van der Stappen, c'est chez Côte 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 Édition, c'est ça?
Oh oui, une maison d'édition extraordinaire. Je vous conseille vivement tous leurs livres.
Ça vous plaît ça, Florence Amna?
Beaucoup, oui, oui.
Et c'est quoi votre livre, le premier livre que vous avez lu, vous? Celui qui vous a marqué, le roman, le premier roman qui vous a marqué?
Moi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille de lecteurs où tout était permis, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas l'étagère des parents et l'étagère des enfants. On prenait ce qu'on voulait dans la bibliothèque et après, on disait « Ah, j'ai lu ça, j'ai ça ». Et donc, les premiers livres qui m'ont saisi de frayeur et de plaisir, parce que je pense que la lecture, ça va ensemble, il y a cette espèce de côté où on est précipité dans un monde, où j'ai compris ça, que la lecture vous précipitait dans un autre monde et à la fois, vous ne pouviez plus lâcher le livre, c'est Zola. Et donc j'ai lu Zola à 7-8 ans, sans rien comprendre évidemment, en saisissant par contre qu'on rentrait quelque part et je savais que je n'en sortirais plus jamais. Et Zola reste pour moi une référence incroyable. Et c'est d'ailleurs drôle parce que j'ai acheté récemment, il y a quelques années, on a publié à Terres Humaines un recueil de ses carnets d'enquête. Et alors je me suis ruée dessus, ouais, qui est un très beau bouquin, énorme, et je me suis dit comment il faisait. Et donc... voilà, Zola étant resté mon premier auteur, on se souvient toujours du premier amour, et ben pour moi c'est lui. J'ai lu ce bouquin et j'étais très étonnée du fait qu'il notait exactement l'inverse de ce que je note moi dans mes carnets d'enquête, si j'ose dire. C'est-à-dire que lui note tous les détails, il va noter très précisément la couleur des tapis, comment c'est fait, qu'est-ce qu'on a mangé, tout, un greffier. Et pas un dialogue. Et moi, je vais plutôt faire l'inverse. Plutôt noter les dialogues que les tapis. Et du coup, maintenant, je m'efforce un peu. Je me dis, quand même,
à la
faisant
Zola,
comme
quoi.
Zola. Oui, c'est ça.
Alors, c'est pas du Zola, c'est du Omna, mais c'est très, 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 très bon. L'inconnu de la Poste, c'est aux éditions de l'Olivier. Merci beaucoup, Florence Omna.
Merci à vous.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide et son carnet d'adresses. Et merci à Boris Paczynski, bien entendu. L'homme aux doigts de fée, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
14h-15h sur Europe 1. La voix est livre. Nicolas Carreau.